France Musique.
Un nouveau journal avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Auditionné en début de matinée par la délégation parlementaire au renseignement, Christophe Castaner présidera ensuite une cérémonie d'hommage dans la cour de la préfecture de police de Paris. Les quatre victimes de l'attaque de jeudi seront décorées à titre posthume de la Légion d'honneur. Le ministre de l'Intérieur sera ensuite rejoint par Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Le chef de l'État prendra la parole pour un discours d'une quinzaine de minutes. Privilégié depuis samedi, la piste terroriste semble, elle, se confirmer un peu plus chaque jour. Les enquêteurs ont en effet découvert au domicile du tueur des clés USB avec des vidéos de propagande et des données personnelles concernant plusieurs policiers. Vianney Smiavrowski.
Les enquêteurs ont retrouvé des clés USB lors de la perquisition jeudi au domicile de Michael Harpon à Gonesse dans le Val d'Oise. On y retrouve, en plus de nombreuses vidéos de propagande du groupe État islamique, des coordonnées et des données personnelles d'une dizaine de collègues de l'assaillant à la préfecture de police de Paris. On ne sait pas encore pourquoi il gardait ces fichiers, que comptait-il en faire, est-ce qu'il les a partagés? Ça pose beaucoup de questions quand on sait que Michael Harpon était informaticien à la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, employé depuis 2003 et qu'il avait l'habilitation secret défense. Jusqu'ici, il était passé sous les radars du renseignement. Il avait bien des contacts avec des salafistes d'après le procureur antiterroriste et montré quelques signaux, mais faibles. En 2015, par exemple, il avait justifié l'attentat de Charlie Hebdo devant des collègues, mais rien n'a été consigné à l'écrit, seulement un signalement oral et informel à la hiérarchie. Aucune mention de radicalisation ne figurait dans son dossier administratif. Le ministre de l'Intérieur a reconnu des dysfonctionnements hier. Christophe Castaner devra s'en expliquer ce matin à huis clos devant la délégation parlementaire au renseignement, puis dans l'après-midi devant la commission des lois de l'Assemblée nationale et devant celle du Sénat jeudi prochain.
Plusieurs centaines de manifestants occupent toujours ce matin la place du Châtelet à Paris. Ce sont des militants de l'association écologiste Extinction Rébellion. Ils ont l'intention de rester sur place le plus longtemps possible. D'autres opérations de ce genre sont prévues dans une soixantaine de grandes villes du monde pour dénoncer l'inaction dans la lutte contre le changement climatique. Ils disent vouloir protéger l'avenir de leurs emplois, d'où cette plainte contre l'État français. Deux syndicats de General Electric sont à l'origine de cette action en justice. Les salariés de l'entreprise considèrent que les dernières propositions de la direction en matière de plan social sont encore pires que les précédentes. Ils estiment également que l'exécutif n'a pas réussi à faire respecter un accord de 2014 qui encadrait à l'époque le rachat de l'activité énergie d'Alstom. Philippe Petit-Collin représente la CFE-CGC qui avec Sud, a donc décidé de saisir le tribunal administratif de Paris.
Mardi, on était à Bercy pour rencontrer les équipes de Bruno Le Maire pour leur dire justement qu'on s'y fait la fin de la récré, qu'ils s'étaient bien foutu de notre gueule depuis 5 semaines et que maintenant on allait porter plainte. Donc Bruno Le Maire, il est monté en pression. Et puis mercredi, il nous a convoqué à 17h30 dans son bureau pour essayer de nous convaincre de ne pas porter plainte parce que ça allait être une catastrophe, J allait se replier et tout. Sauf que pour l'instant, J, ils ont rien lâché, donc je vois pas comment il peut plus se replier que maintenant. Quand J dit on fait un pas en avant, on fait un geste, etc. Mais en plus, c'est conditionné au retour sur tous les acquis sociaux qu'on a négociés depuis 20 ans. En aucun cas, c'est une proposition qui est meilleure que la première, quoi. Le projet, il pourra être revu très significativement si le gouvernement arrache à la récup quelque chose de beaucoup mieux. Donc après, on lui a dit que nous porterons bien et qu'on s'engageait publiquement à retirer notre saisie s'il obtenait un changement très significatif et un projet qui est conforme à l'accord de 2014.
Alors que la mesure est encore à l'étude en France, la réduction du nombre des parlementaires devient une réalité en Italie. Un projet de loi qui supprime un tiers des élus doit être définitivement adopté dans la journée à Rome, d'où nous appelle Bruce de Galzin.
Ils sont encore 945, ils ne seront plus que 600 parlementaires lors de la prochaine mandature. C'est le mouvement 5 étoiles qui a porté cette loi pour faire des économies entre 60 et 100 millions d'euros par an pour un coût de fonctionnement du Parlement d'1,5 milliard d'euros, pour être plus efficace aussi, selon la députée 5 étoiles Vittoria Baldino.
Il y a trop de lois mal écrites qui souvent ne servent pas aux citoyens. En sélectionnant davantage les parlementaires, on va responsabiliser la classe politique. Ils auront une plus grande visibilité et donc une plus grande responsabilité à l'égard des citoyens qu'ils représentent.
Même l'opposition a annoncé qu'elle votera cette loi. Matteo Salvini l'a toujours défendue, contrairement au Parti démocrate, désormais au pouvoir et dans le viseur du chef de la Ligue.
Nous avons voté trois fois, on y a toujours cru. En revanche, on verra si le Parti démocrate change d'idée. Il a toujours voté contre. On verra bien. Mais ce groupe d'incapables passe son temps à se battre. C'est un gouvernement qui s'est plus querellé en un mois que nous en un an et demi.
Le Parti démocrate dénonçait hier la réduction de la démocratie. Il fera aujourd'hui de l'Italie le pays où la population sera le moins représentée au Parlement avec les Allemands.
De la pluie et de la grisaille sur le nord, la moitié sud aura droit à une journée plutôt agréable. Les températures iront cet après-midi de 16 à 27 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré. À demain, Olivier, dès 7h. Bonne journée. La rêveuse, c'est le titre d'une pièce signée Marin Marais. C'est aussi le nom qu'a choisi la gambiste Florence Bolton pour son ensemble. Avec Benjamin Perrault, ils explorent les œuvres de grands musiciens des 17e et 18e siècles, souvent des œuvres méconnues. Ils sont en ce moment sur scène à Paris, au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet, pour L'autre monde ou Les états et empires de la lune de Cyrano de Bergerac. Florence Bolton est notre invitée dans 25 minutes. Et si nos plantes vertes, cactus, rosiers chantaient, vous avez bien entendu, deux musiciens ont mis au point une application, elle transforme les mouvements des végétaux en ondes, puis en sons. Explication signée Suzanne Gervais, ce sera à 8h15, musique connectée.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Une fois n'est pas coutume, c'est un article dans le journal en ligne Bastamag qui a retenu mon attention. Sophia Anastasio nous en parlait également tout à l'heure. Quand la musique classique permet de lutter contre la mafia et l'embrigadement des enfants, c'est le titre de cet article qui raconte le travail de la fondation Falcone Borsellino, du nom des juges assassinés au début des années 90, via l'apprentissage de la musique. Cette fondation donc ouvre de nouveaux horizons aux enfants. L'enseignement s'inspire de la méthode vénézuélienne El Sistema. Une musicienne toute jeune, de 16 ans, témoigne. C'est une manière de te détourner des choses négatives que tu pourrais faire dans ton quartier. Si tu peux jouer d'un instrument, tu peux aussi viser quelque chose de plus élevé que ce à quoi te limite ton environnement. C'est l'original, la bande originale du Parrain de Nino Rota pour la musique film de Francis Ford Coppola de 1972. Et comme souvent dans les musiques, les bandes originales, c'est un orchestre sans nom. C'est avec Così fan tutte, le deuxième et dernière de la collaboration, la dernière collaboration d'Aponte Mozart, que l'Opéra de Tours a choisi d'ouvrir sa saison. C'est en ce moment. La mise en scène est signée Benjamin Pionnier et Gilles Bouillon. La dernière, c'est ce soir. Ce matin, je vous propose le duo Prendero quel Brunettino entre Fiordiligi et Dorabella, mais dans un arrangement que j'aime beaucoup pour Ensemble avant. Extrait de ce Così fan tutte de Mozart, arrangé pour Ensemble avant par Johann Nepomuk Wendt. C'était l'Ensemble avant de Budapest, dirigé par Kalman Berks. Et l'Opéra de Tours propose donc Così fan tutte en ce moment, la dernière. C'est ce soir, France Musique, il est 8h15. Bonjour Suzanne Gervais.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
C'est Musique Connectée, en partenariat avec la Lettre du Musicien. Et ce matin, Suzanne, vous nous parlez d'une musique un peu particulière, puisqu'il s'agit de la petite musique, non pas de nuit, mais de nos plantes vertes, qu'une application se propose de rendre audible.
Oui, le langage des plantes intéresse de plus en plus le grand public. Je pense au livre best-seller « La vie secrète des arbres » de Peter Volleben. Eh bien, figurez-vous que vous pourrez bientôt écouter la voix de vos plantes grâce à un appareil un petit peu particulier qui s'appelle PlantWave et qui a été inventé par deux musiciens expérimentaux. Alors PlantWave, c'est un petit boîtier qui est muni de deux capteurs truffés d'électrodes, capteurs que vous posez tout simplement sur les feuilles d'une plante, un fougère, ficus, aloé ou lierre. Peu importe, le boîtier se connecte à une appli sur votre téléphone ou votre ordinateur et grâce à tout ce petit système, les légères variations électriques émises par les plantes sont traduites par des sons.
Et qu'est-ce que ça donne alors ces sons, Suzanne ?
Alors en fait, le projet est encore en phase de test et de financement sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Il a déjà récolté 44 000 euros, mais j'ai pu entendre un petit extrait de démo. Alors faites-moi confiance, ce n'est pas désagréable, loin de là, les sons qu'on entend. Mais aux fondateurs de Plantwave qui nous promettent, je cite, une expérience métaphysique, moi je réponds que ça ressemble quand même drôlement aux morceaux concoctés par les playlists zen et détente. Mais enfin, pourquoi pas découvrir la petite musique des plantes, c'est une idée qui est quand même tentante. Et si cette appli peut susciter un nouvel intérêt pour le végétal, ce n'est pas mal non plus. L'appareil sera commercialisé si tout va bien en juin. Il est disponible en précommande au prix de 220 $ quand même. Alors gadget ou révolution, c'est à vous de juger.
À réécouter sur francemusique.fr.